Attention locataires, propriétaires, vos charges risquent d'augmenter en cause la crise énergétique qui risque de faire exploser le prix du gaz, du mazout ou de l'électricité. Alors comment éviter de devoir sacrifier les bijoux de famille, la vaisselle de grand-mère ou votre bibliothèque d'incunables pour payer vos charges? C'est ce qu'on va voir dans le guichet du jour consacré au droit du bail et plus précisément aux questions sur cette augmentation des charges, Didier Bonvin.
Oui, que l'on soit locataire ou propriétaire, on assiste à une explosion des frais accessoires. Alors comment y voir clair, comment agir ou réagir, comment s'articule le droit du bail par rapport à ces questions brûlantes? Nous allons y répondre ce matin en fonction de vos questions, chers auditeurices.
On attend vos questions. Deux spécialistes présents ici en studio qu'on vous présentera dans un instant sont prêts à dégainer leurs réponses. Et pour nous les poser, vos questions, il y a trois chemins, Didier.
Oui, le plus court, c'est notre numéro gratuit 0800 108 208 0800 108 208 pour poser la question directement à l'antenne. Sinon, un vocal via l'application de votre choix WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma. Vous enregistrez vos questions et vous l'envoyez au numéro 076 206 12 12, 076 206 12 12 ou encore un courriel à l'adresse onenparle@rts.ch.
Guichet spécial charge ouvert à toutes vos questions, locataires ou propriétaires, on y répond jusqu'à 10h. Bonjour et bienvenue.
On en parle, le guichet, Didier Bonvin, Philippe Gérard.
Et ce matin, c'est Mathilde Pelletier et Bastien Fondevis qui recueillent vos messages par téléphone ou par écrit. Et c'est Alexandre Davoine qui assure la bonne diffusion de cette émission. On est donc en compagnie de deux invités ce matin que je vais tout de suite vous présenter. Martine Jacques, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste à la Chambre vaudoise immobilière. Merci d'être avec nous ce matin. Et à vos côtés, Carole Vallonne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes avocate à Lausanne, spécialiste SSA en droit du bail et vice-présidente de l'ASLOCA Vaud. Alors nous avons reçu beaucoup de questions sur la hausse des frais, la hausse des charges. Ces inquiétudes aussi se reflètent du côté des propriétaires, Martine Jacques.
Oui, bien entendu, qu'on soit locataire ou propriétaire, on va tous assurément subir cette hausse-là. Quand on est propriétaire, eh bien, qu'on occupe son propre logement, on va le subir directement. Mais quand on est bailleur, il y a aussi des situations, on le verra peut-être plus tard, où le bailleur risque de devoir assumer, lui, cette augmentation des charges, selon la manière dont le bail a été rédigé. Et on le voit auprès de notre association, on a des préoccupations de bailleurs qui ont fait, par exemple, des loyers tout compris, ou des loyers avec des forfaits qui se disent bah, c'était un système qui me semblait bon et maintenant comment faire parce que c'est moi qui vais devoir assumer tout cela.
On a reçu d'ailleurs pas mal de questions de propriétaires qui s'inquiètent effectivement de cette augmentation des charges. Et Carole Vallonne, l'ASLOCA a pris les choses en main en demandant des mesures immédiates au Conseil fédéral pour protéger les locataires face à la hausse des charges. Est-ce que vous avez été entendue?
Alors on l'espère, on aura des réponses dans les jours qui viennent probablement à ce sujet. Les locataires représentant environ 65% des citoyens de ce pays, ben, ça nous paraît indispensable que l'État intervienne, notamment peut-être en faveur des ménages les plus modestes. Et puis c'est notamment ce qui a été demandé pour éviter des situations sociales extrêmement problématiques par hypothèse.
Carole Vallonne et Martine Jacques nous accompagnent donc jusqu'à 10h pour répondre à toutes vos questions.
Le guichet dont on en parle, 0800 108 208.
Et on a déjà un premier appel au 0800 108 208, c'est Nicole qui nous appelle du Valais. Bonjour Nicole.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi j'avais justement... une question par rapport au contrat de location, parce que je suis propriétaire. Et puis, dans mon contrat, eh bien, j'ai loué, comme a dit la dame, charges comprises. J'ai séparé quand même la location plus les charges, mais en fin de compte, j'ai marqué sur mon contrat charges comprises. Est-ce que, comme c'est un appartement qui est loué au mazout, est-ce qu'il y aura une possibilité, si vraiment le mazout augmente encore, d'augmenter aussi ses charges. Voilà.
Alors Martine Jacques va vous répondre.
Alors, je comprends, madame, que vous avez fait donc un loyer tout compris. C'est vrai que c'est un système que l'on retrouve parfois pour certains propriétaires qui choisissent d'intégrer dans le loyer l'entier des charges, dont, vous l'avez dit, le chauffage, l'eau chaude, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas un locataire qui paye un loyer, plus un acompte avec un décompte en fin d'exercice. Donc là, vous vous dites, eh bien finalement, la hausse du prix du mazout, c'est moi qui vais la supporter dans l'immédiat, et c'est vrai. C'est vrai que cette méthode de bail fait que le propriétaire assume, en tout cas pour l'instant, l'entier de la hausse du coût du mazout. On pourrait imaginer pour le futur une adaptation de ce loyer, en fonction notamment de la hausse des charges telle que celle du mazout. Mais il faut savoir que lorsque l'on parle d'augmentation des charges, on doit se baser en tant que propriétaire sur une moyenne des 3 derniers exercices. En fait, l'idée, c'est un petit peu de voir ce qui s'est passé les 3 derniers exercices, de lisser cela, et puis de faire ce calcul à ce moment-là.
Un exercice, c'est quoi? C'est un mois? C'est une année?
Alors un exercice, par exemple dans le canton de Vaud, ça va du 1er juillet au 30 juin. Un exercice de chauffage, mais là, dans son cas, on pourrait imaginer un exercice annuel. Donc concrètement, Nicole, on pourrait imaginer qu'en 2023, vous regardiez quelles étaient ces charges, quelles étaient ces charges de mazout pour les années 2022, 2021 et 2020. Et s'il y a une augmentation par rapport au moment où le bail a été conclu, on pourrait imaginer une adaptation de ce loyer. Mais le bailleur est soumis à des conditions strictes. Il doit utiliser une formule officielle. Il peut faire entrer en vigueur la hausse que pour l'échéance du contrat. Donc, il faudra bien examiner les choses le moment venu.
C'est différent si Nicole avait séparé les charges du loyer?
Oui. Oui, alors le système usuel, c'est ce qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est le système de l'acompte. À savoir qu'un locataire paye un loyer et en sus de ce loyer, il paye un montant qui sert de provision pour les charges de chauffage et d'eau chaude. Et c'est donc une provision qui suppose un décompte en fin d'exercice en général le 30 juin. Donc on est par exemple en train de boucler les comptes de l'exercice 2021-2022. Et dans ce cas-là, alors c'est vraiment les coûts effectifs qui sont répercutés sur le locataire. Donc c'est les factures que paye le propriétaire. Si le propriétaire bénéficie de rabais, il doit en faire profiter au locataire, il n'y a aucune marge. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que c'est la réalité des coûts qui est facturé au locataire.
C'est quel système est le plus favorable au locataire, Carole Vallone? C'est charges comprises dans le loyer ou bien les deux séparés?
Alors c'est assez difficile à dire. Je pense pas qu'on peut répondre dans l'absolu comme ça. Ce qui se fait usuellement maintenant, c'est d'avoir plutôt un acompte de charges et puis qu'ensuite le locataire s'acquitte des montants de ce qu'il a effectivement consommé selon le principe du consommateur-payeur en réalité. C'est ça qui s'applique. Maintenant, le système de base prévu par le Code des obligations, c'était plutôt un système où le loyer est censé couvrir l'entier des frais du locataire, l'entier des frais y inclut le chauffage, etc. Ça se fait évidemment de moins en moins parce que justement il peut y avoir des variations de coûts et puis dans ce cas-là c'est le propriétaire comme Madame Jacques l'a expliqué qui va devoir supporter cette différence.
Voilà donc ce qu'on pouvait répondre à Nicole. Didier ?
Oui, toujours sur cette thématique des charges, une question qui nous a été envoyée par Véronique de Genève sur les charges au forfait. Je suis locataire d'une arcade commerciale, les charges sont au forfait, je ne reçois donc pas de décompte annuel, je n'ai pas de ristourne si j'ai trop payé. Est-ce que l'inverse est valable, nous demande Véronique, puisque les prix augmentent, est-ce que je peux être amené à payer plus? Peut-être Carole Vallone, vous pouvez répondre à cette locatrice.
Nouveau, comme l'a expliqué Madame Jacques tout à l'heure par rapport au loyer tout compris, quand il y a un forfait qui est fixé, on peut se baser sur une moyenne des 3 dernières années pour adapter le forfait, que ce soit à la hausse ou à la baisse, au demeurant. Alors, actuellement, ce sera plutôt à la hausse. Maintenant, il faut bien se dire que dans un tel cas, il est clair que la hausse ne va pas se répercuter dans l'immédiat, puisque sur les trois derniers exercices, il n'y aura probablement pas ou très peu de différence, mais ce sera sur les exercices futurs. Et puis, comme on l'a dit, le bailleur qui veut augmenter le montant du forfait, il doit le faire au moyen d'une formule de notification de hausse de loyer, puisque c'est une hausse de loyer ou des nouvelles prétentions, à défaut de quoi cette hausse sera considérée comme étant nulle.
0800 108 208 pour nous appeler, poser vos questions en direct jusqu'à 10h dans ce guichet spécial charge et droit du bail. On accueille une autre auditrice qui s'appelle aussi Nicole mais qui nous appelle de Lausanne. Bonjour Nicole.
Bonjour. Alors, le problème que nous avons en ce moment dans notre immeuble, c'est que notre gérance ne nous a pas envoyé de décompte de chauffage depuis plus de 3 ans. Lorsqu'on les appelle, ils nous disent qu'on n'a pas eu le temps, ou ci, ou ça, et voilà. On suppose bien que, puisque nous n'avons pas eu de décompte, c'est qu'ils nous doivent de l'argent. Sinon, même pour 15 francs, ils nous auraient envoyé une facture. Alors, si on comprend que ça va augmenter ou comme ça, que pouvons-nous faire? Nous sommes, la plupart des locataires sont à l'ASLOCA. Est-ce qu'on doit entrer en contact avec l'ASLOCA?
Alors justement, l'ASLOCA vous écoute, en la personne de Carole Vallone. Alors,
on va vous répondre, Nicole.
Oui, alors je pense que c'est pas inutile de prendre contact avec l'ASLOCA. Quand les charges sont payées au moyen d'acompte mensuel, le bailleur est tenu, et il a l'obligation, en tout cas dans le canton de Vaud de manière très claire, mais de manière générale, d'établir des décomptes chaque année, des décomptes qui sont détaillés, qui sont compréhensibles pour le locataire. Il doit également fournir toutes les pièces justificatives si le locataire le demande. Donc ça, c'est une obligation qu'il a. S'il ne le fait pas, le locataire peut par hypothèse, demander le remboursement de l'entier des acomptes payés.
Ah bon?
Puisque, parce que ces montants sont dus pour autant qu'il y ait un décompte. N'est dû que ce qui est effectivement payé par le bailleur pour la consommation, selon des règles assez strictes. Dans le canton de Vaud, on a encore des directives pour l'établissement des décomptes de chauffage et de frais accessoires qui sont extrêmement précises sur ce qui doit figurer dans ces décomptes. Donc c'est quelque chose à vérifier. On peut demander le remboursement des acomptes. Maintenant, si le bailleur, parce que quand on va lui demander le remboursement des acomptes, probablement va réagir, va finalement faire ses décomptes. Mmh. Là, la question se discute. Maintenant, les règles à usage locatif vaudois, en tout cas, et ça c'est une particularité vaudoise, prévoit en théorie un délai de 5 mois pour le bailleur pour établir ses décomptes. Mmh. On ne sait pas trop quelle est la conséquence de ça. Selon certains arrêts du tribunal cantonal notamment, il se pourrait même que ces décomptes, en quelque sorte, se prescrivent si le bailleur ne les établit pas dans le délai. Mais évidemment que la position des côtés des bailleurs, elle est un peu différente.
Et Martine Jacques, vous faites la moule. Hein.
Non, on est d'avis que le délai de 4 mois prévu par les directives est un délai d'ordre. C'est dans le sens qu'il n'a pas de conséquences juridiques, la prescription étant de 5 ans. Donc le bailleur a 5 ans pour établir ses décomptes. Mais évidemment qu'on peut que recommander au bailleur de le faire, hein, bien entendu. Donc de donner suite à ses demandes, il aurait dû le faire spontanément et donner suite à ses demande d'établir les décomptes et puis de réclamer les suppléments, si suppléments il y a, ou de procéder aux ristournes, si ristournes il y a.
Alors, on peut s'adresser à l'ASLOCA quand on est locataire, mais est-ce qu'on peut aussi, par exemple, s'adresser à vous, Martine Jacques, si par exemple un propriétaire ou une gérance ne joue pas le jeu? Comme par exemple, justement, pour Nicole, n'envoie pas ses décomptes, ça fait 3 ans qu'elle a pas reçu de décompte, est-ce qu'on peut aussi passer par vous?
Alors, le locataire ne s'adressera pas à nous, hein, en l'occurrence la Chambre vaudoise immobilière, qui est une association de propriétaires, mais le propriétaire, c'est notre travail quotidien, hein, de répondre aux questions des propriétaires, des gérances aussi, s'il a un doute sur l'application du droit du bail, ou comment faire concrètement, bien entendu, c'est aussi un petit peu de la prévention.
Voilà ce qu'on pouvait donc répondre à Nicole et lui conseiller donc de demander le remboursement des acomptes de charges payées jusqu'à maintenant puisqu'elle n'a pas reçu de décompte, Didier.
Et cela rejoint une question qui nous a été envoyée par Monsieur Martelly. J'ai reçu des frais de chauffage déjà en augmentation. Comment comprendre cela? Est-ce normal? Comment réagir? De nouveau contacter l'ASLOCA si déjà on reçoit, par rapport à l'année précédente, des frais de chauffage qui sont déjà en augmentation?
Alors ça paraît effectivement assez étonnant, puisque les augmentations, elles ont commencé à intervenir durant le printemps. Comme Madame Jacques l'a expliqué tout à l'heure, l'exercice comptable pour tout ce qui est frais de chauffage et frais accessoires, en principe, court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc normalement, sur l'exercice 2021-2022, il devrait y avoir relativement peu d'augmentation. En tout cas, ça ne devrait pas être quelque chose d'extrêmement conséquent. Maintenant, il ne faut pas confondre deux choses. C'est justement, une fois qu'on fait le décompte, mais on sait si, avec les acomptes payés, on était dans le tir et puis il n'y a pas forcément besoin de verser un supplément où il n'y a pas de ristourne. Après, ce qu'on voit actuellement beaucoup, c'est des bailleurs qui proposent spontanément aux locataires d'augmenter leurs acomptes pour le futur. Ça, le locataire est libre de l'accepter ou pas. Du côté de l'ASLOCA, on ne le recommande pas forcément. On recommande plutôt de provisionner un montant pour voir s'il y aura effectivement une augmentation à l'avenir. Mais en tout cas, le précédent exercice devrait relativement peu être impacté. Donc c'est clair que si maintenant il y a une hausse massive, il faut peut-être s'inquiéter et puis faire vérifier ce décompte.
Martine Jacques.
Oui, c'est vrai que pour l'exercice actuel, je rejoins ce que dit Maître Wallen, la hausse nous semble, on est en train de boucler hein, les décomptes 2021-2022, encore pas trop élevée du fait que l'augmentation des coûts date du mois de mars, hein, début de la guerre en Ukraine. Et puis, la consommation a un petit peu baissé par rapport à l'exercice précédent dû à un hiver doux. Donc c'est vrai que pour l'exercice à venir 2022-2023, tout dépendra aussi en plus des coûts de l'énergie, mais aussi de la rigueur ou pas de l'hiver. Donc on a passablement d'incertitudes. Mais ça nous paraît bon aussi, cet appel aux locataires d'augmenter leurs acomptes de manière volontaire hein, pour éviter des importants suppléments en fin d'exercice. Maintenant, si un propriétaire voulait absolument imposer une augmentation de l'acompte, il peut le faire. Mais pour cela, il doit utiliser une formule officielle de hausse de loyer pour l'échéance suivante. Alors, à voir de cas en cas si c'est judicieux ou pas.
Pour envoyer vos messages vocaux par WhatsApp, Signal, Telegram ou Tréma, 076 206 12 12.
Et c'est ce qu'a fait cette auditrice, et plutôt deux fois qu'une, puisqu'elle nous a envoyé deux messages. On écoute sa première série de questions.
Bonjour, on en parle dans mon immeuble, et j'imagine que c'est dans l'ensemble de ma gérance, nous avons reçu uniquement un courrier générique qui nous propose d'augmenter nos acomptes. Mais il n'y avait aucune estimation du surcoût que la crise actuelle pourrait nous engendrer sur nos frais, et puis aucun conseil sur comment réduire nos dépenses énergétiques. Voilà ma première question. Peut-on, en tant que locataire, demander à notre gérance, voire même attendre de celle-ci, d'informer ses habitants de moyens simples pour réduire ses dépenses énergétiques afin de limiter les surcoûts? Et puis, dans ce cas, quels seraient les liens et autres conseils fiables et scientifiques que vos experts peuvent nous transmettre? Peut-être que notre gérance sera ravie de ne pas devoir faire elle-même cette recherche.
Voilà, proposer d'augmenter les acomptes aux locataires sans donner de conseils. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Carole Wallen?
C'est évidemment un petit peu compliqué de savoir. Parce qu'il y avait deux phases dans la question. La première, c'est de savoir de combien augmenter les acomptes. Ça, c'est extrêmement compliqué d'y répondre.
On peut le faire de façon volontaire, se dire, moi, je paye 100 francs de plus.
Tout à fait. Alors, en principe, on fait un petit avenant signé à la fois par la gérance et par le locataire qui dit, mon acompte était de 100 francs, je l'augmente à 150 francs, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible de le faire. Ça, c'est une première chose. Puis l'autre volet, c'est le volet économie d'énergie. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que finalement, la question, elle est double à ce niveau-là, puisque c'est une hausse des coûts de l'énergie qui va passablement impacter les locataires. Sur cette hausse des coûts, personne n'a de réelle prise. Après, on peut avoir un impact sur la consommation. Et ça, c'est une autre problématique. Ça, évidemment, que les locataires peuvent améliorer la manière dont ils se comportent sur le plan énergétique pour limiter la consommation. Il y a un autre problème, c'est évidemment l'isolation des immeubles, qui souvent laisse à désirer, en particulier dans les immeubles anciens. Et puis ça, on peut que le regretter, parce que c'est de l'énergie qui est consommée de manière parfaitement inutile.
Alors ça tombe bien, parce que ça fait la transition avec la deuxième partie de la question de cette auditrice qu'on écoute.
La suite de mes questions est plus en lien avec mon immeuble en particulier, puisque chez nous, l'eau chaude et le chauffage est au mazout. La somme est partagée entre tous les locataires, j'imagine, au prorata de la taille de nos appartements et non pas sur un compteur, et donc la dépense réelle de chacun. Moi qui suis très active sur la question écologique et consciente des économies de ressources, j'ai plutôt tendance à mettre un pull et à baisser un peu le chauffage en hiver que l'inverse. Et je suis particulièrement donc agacée par la perte énergétique via les vieilles fenêtres des années 50 de mon immeuble, que j'ai déjà demandé à plusieurs reprises de faire changer, en vain. Et par exemple aussi par les 3 bains hebdomadaires de mes voisins, été compris. Du coup, peut-on demander la mise en place d'un décompte eau et chauffage sur compteur plutôt que ce partage de la somme globale? Et dans ce cas, quel conseil pour ce faire? Enfin, quels seraient les arguments et comment peut-on demander à notre propriétaire ou notre gérance une meilleure isolation de notre bien, à savoir le remplacement notamment de nos vieilles fenêtres? Quelles sont les aides que les communes et l'État peuvent mettre à disposition pour inciter nos propriétaires à faire ce genre de changement? Je vous remercie pour vos réponses et me réjouis d'entendre votre guichet.
Voilà donc pour les questions de cette auditrice. Martine Jacques, quand un locataire demande à la gérance ou au propriétaire de changer ses fenêtres, vous entrez en matière?
Je crois qu'il n'est pas possible de répondre
de manière générale, hein, c'est une analyse que doit faire le propriétaire. Bien entendu que tout le monde est d'accord sur le fait de dire que un parc immobilier a tout intérêt à être entretenu, que ce soit pour le confort des locataires, mais aussi pour la valeur de l'immeuble. Cela étant dit, le moment venu, lorsqu'il s'agit de faire face à des travaux, eh bien, il y a tout un tas de considérations qui doivent être prises en compte par le propriétaire. La question, évidemment, des faisabilités techniques. Hein, parfois, on ne va pas simplement procéder à un changement de fenêtre, mais c'est une amélioration plus globale qui va être faite. Qu'est-ce qui est techniquement possible? La question du financement, bien entendu, aussi. Comment? Et puis, la question de la répercussion de ces travaux sur les locataires. Parce qu'à partir du moment où il y a des mesures d'amélioration énergétique, eh bien, le Code des obligations nous dit qu'il s'agit d'une prestation à plus-value qui peut être répercutée sur les locataires. Donc là, il y a un calcul aussi à faire par le propriétaire. Mmh. Et c'est l'ensemble de ces critères, plus encore les questions de droit administratif, d'aménagement du territoire, voire de loi cantonale en matière de travaux, qui doivent être pris en considération par le propriétaire.
Mais vous comprenez que ce soit compris comme injuste, que ce soit considéré comme injuste de payer plus de charges, par exemple plus de chauffage, alors qu'on a des fenêtres qui ferment mal et qui sont mal adaptées, et un appartement mal isolé, par exemple.
Alors, oui.
Oui, alors nous, si je me permets d'intervenir, on regrette évidemment cette situation, puisque les taux hypothécaires sont très très bas depuis de nombreuses années, les loyers sont extrêmement élevés, et on voit beaucoup de propriétaires, notamment d'immeubles anciens, qui n'ont pas du tout investi dans aucune mesure à ce niveau-là, et puis ça, c'est vraiment regrettable, mais voilà, à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas d'obligation de faire des améliorations énergétiques pour des immeubles déjà construits. C'est en revanche le cas pour tout ce qui se construit, ce qui se rénove, où là, il y a des normes de droit public relativement strictes.
Mmh. Alors, autre partie de la question, très importante, parce qu'on l'a souvent reçue cette question, est-ce qu'on peut demander à ce que les charges soient calculées selon la consommation réelle de chaque locataire ? Silence.
Non, mais alors, la réponse est que ça dépend. Il y a des immeubles, tous les immeubles récents justement, il y a une obligation de poser des compteurs individuels pour chaque locataire, ce qui est une très bonne chose parce qu'évidemment que ça incite chacun à faire plus attention et puis chacun est responsable de sa propre consommation. Donc celui qui consomme plus n'a pas d'impact ou peu d'impact sur les autres et puis par contre va payer beaucoup plus de charges. En revanche, c'est la même chose dans les immeubles plus anciens. En général, il y a un seul compteur pour l'immeuble et puis les frais de chauffage et autres sont répartis au prorata, en principe c'est du volume. Et du coup, les locataires qui font attention sont pénalisés par rapport à ceux qui n'ont aucune considération écologique, ce qui est aussi assez regrettable. Pas d'obligation, à ma connaissance, de poser des compteurs individuels. Du côté de la SLOCA, c'est aussi quelque chose, une demande qu'on fait, qu'il y ait des compteurs individuels.
Voilà ce qu'on pouvait donc répondre à cette auditrice. On va marquer une pause à 9h29. On reçoit beaucoup de questions sur cette problématique des charges pour les locataires et les propriétaires. Continuez de nous appeler, de nous écrire. On en parle à rts.ch ou 0800 108 208. On va continuer tout à l'heure de répondre à vos questions.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Il
Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures, finis tes devoirs. Il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Quatre murs et un toit, c'était Benabar, un titre en résonance avec le thème du guichet du jour sur les charges et le droit du bail, avec nos deux invités, Martine Jacques, juriste à la Chambre vaudoise immobilière, et Carole Wallen, avocate à Lausanne, spécialiste en droit du bail et vice-présidente de l'Asloca Vaud. On avait une première question sur les charges comprises dans le loyer, à laquelle on a répondu tout à l'heure. C'était Nicole Sauferreur qui nous l'a posait du Valais. Et on a ce complément de questions de Delphine reçu par notre numéro, par WhatsApp au 076-206-1212. On l'écoute.
Bonjour, c'est Delphine. J'ai bien entendu la première question de la propriétaire que vous avez diffusée tout à l'heure. J'aurais une question complémentaire. Est-ce qu'il est possible de modifier les baux à loyer une fois que les preuves d'augmentation ont été fournies au locataire si on a fait un contrat charges comprises? Ou peut-on modifier les baux ou faire des nouveaux contrats avec des charges non comprises ou charges sur acompte, soit modifier nos baux à loyer, charges comprises en charges non comprises. Merci d'avance.
Voilà, Martine Jacques.
C'est une possibilité tout à fait que peut avoir qu'a le bailleur, hein, lorsqu'il a fait un loyer tout compris. Je prends l'exemple de 1500 francs, un loyer mensuel dû par son locataire de 1500 tout compris. On peut imaginer que pour l'échéance suivante, donc ce sera pas immédiat, ça serait pour la prochaine date anniversaire du contrat, sur formule officielle de nouvelles prétentions, qu'il modifie cette manière de faire, à savoir qu'il décompose son loyer. Alors, dans un premier temps, le locataire va toujours payer 1500 francs, mais ce sera peut-être 1300 francs plus 200 francs d'acompte de charge. Ça suppose donc que le propriétaire fasse un calcul de ses charges des trois dernières années, hein, comme on l'a déjà dit, pour savoir concrètement, dans les 1500 francs qui étaient payés initialement, combien représentait le chauffage là-dedans. Donc on pourrait imaginer effectivement que le bailleur envoie cette notification de nouvelle prétention au locataire en disant dorénavant, il y aura une facturation selon les frais effectifs et votre loyer de 1500 francs est décomposé en 1300 plus 200.
Et côté locataire, Carole Wallen, est-ce que le locataire peut s'opposer à cette modification du contrat?
Alors, comme l'a dit Madame Jacques, précisément, cette modification, elle doit être notifiée sur formule officielle. Mmh. Et quand le locataire reçoit cette notification, il a 30 jours pour, par hypothèse, contester cette nouvelle façon de facturer devant l'autorité de conciliation.
Didier. Oui, on rappelle le numéro 0800 108 208 pour nous appeler. On reçoit aussi des questions par écrit. Alors, on en parle à rts.ch comme celle de Philippe. Le propriétaire nous consulte. Que répondre? Je lis le mail de Philippe. Bonjour, nous sommes un petit locatif de 7 appartements et un magasin. Le propriétaire nous a écrit pour nous demander notre avis concernant une baisse générale du chauffage. Il nous demande quelle température nous semble indiquée pour le chauffage et la température de l'eau. Il nous propose
propose de nous concerter avec les autres locataires pour lui répondre. Que répondre pour diminuer nos charges, nous demande Philippe. Peut-être Carole Valin,
moi, vous avez une réponse. Moi, je dirais que je salue déjà l'initiative et je pense que ça peut être en tout cas... Enfin, quand cette discussion-là est possible, c'est quelque chose de très intéressant et c'est une piste intéressante. Et puis de discuter de... Que peuvent faire les uns et les autres pour essayer de limiter les coûts? Donc ça peut être de ce que peuvent faire les locataires, mais peut-être les locataires peuvent saisir aussi cette occasion pour proposer quelque chose au bailleur que lui prenne en charge ou fasse des aménagements dans une optique d'économie d'énergie.
Donc un appel au dialogue. Martine Jacques, juriste à la Chambre vaudoise immobilière. Vous répondez un peu la même chose à cette demande de Philippe?
Alors, on salue cette initiative du propriétaire et puis des locataires aussi qui ont l'intention d'y répondre favorablement. C'est vrai qu'alors, c'est pas possible de dire à l'avance quelle température, etc. Il y a des recommandations déjà depuis de nombreuses années. C'est pas quelque chose de nouveau sur la température que devraient avoir les locaux, sur la façon de régler une vanne si l'immeuble, si l'appartement ou le local est garni de vannes thermostatiques. Après, c'est vrai que il faut aussi faire attention. Il parlait de la température de l'eau. Il y a aussi des normes à respecter. On peut pas baisser la température de l'eau trop basse. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a des risques de légionelles, par exemple, d'apparition de légionelles si la température est trop basse. Donc, on peut qu'encourager le propriétaire aussi, peut-être, à se renseigner sur ce qui est possible ou pas auprès d'un chauffagiste. Et puis, à ma connaissance, il y a une vaste campagne d'information publique qui va être faite par l'Office fédéral de l'énergie tout prochainement.
Voilà, avec une nouvelle information.
Voilà, avec des trucs et astuces à l'attention tant des propriétaires que des locataires. Donc, je sais que l'OFEN va consulter un grand nombre d'organismes, que ce soit les communes, les villes, probablement l'ASLOCA, la FRI, etc. Et cette campagne sera probablement fort utile pour l'ensemble de la population.
Oui, on nous demande d'ailleurs beaucoup justement de trucs, astuces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'énergie? Beaucoup de locataires attendent ça aussi de leurs propriétaires ou de leur gérance, des conseils très concret. On va tout de suite prendre un appel à 9h38 au 0800 108 208. Sylvia qui nous appelle de Neuchâtel. Bonjour Sylvia.
Bonjour.
On vous écoute.
Votre auditrice précédente a posé, enfin pas précédente, très précédente, a posé des questions sur WhatsApp magnifique et vous avez en partie répondu. Mais je me demandais en vous écoutant, et je vous remercie pour votre émission, comment rester digne à la lisière de la précarité quand on a des frais qui nous laisse démunis parce qu'on peut pas agir. Alors, moi, je peux agir en tant que citoyenne écolo, en ne chauffant pas, en limitant l'électricité. Je l'ai toujours fait depuis que je suis née, parce que j'avais des parents écolos avant l'heure. Mais en revanche, je ne peux pas agir, apparemment, vous écoutant, sur ces frais de chauffage, notamment parce que je suis dans le cas, comme cette dame, d'un chauffage qui est comptabilisé pour tout l'immeuble. Je viens de le découvrir, avec une régie qui répond très rarement aux questions ou qui y répond fort vaguement, très poliment, avec des grandes phrases qui veulent rien dire. Donc, j'ai des acomptes provisionnels que je comprends pas, et j'ai des frais de chauffage qui vont sans nul doute augmenter parce qu'à Neuchâtel tout est très cher. En revanche, je pourrais rien faire. Je vais continuer pour l'écologie à diminuer mes frais en ne chauffant pas. Mais celui d'en face, il va peut-être chauffer à 25 parce que je vois que les gérants sont peu concernés par l'écologie et beaucoup de citoyens ne le sont pas encore. Donc, je suis démunie, je me sens démunie à votre écoute. Voilà, c'est tout. J'ai plus de questions, du coup, je m'excuse. Mais parce que vous direz.
On vous remercie d'avoir exprimé effectivement votre ressenti. C'est vrai que c'est quelque chose que ressentent pas mal d'auditrices, d'auditeurs, cette espèce d'injustice. Il y a des gens qui font des efforts pour économiser l'énergie, pour réduire leurs frais, et puis ils ont l'impression que d'autres n'en font pas. Comment faire finalement pour... En plus, Sylvia, comme elle le disait, elle est à la limite de la précarité. Est-ce qu'elle peut se faire aider éventuellement pour payer ses charges? Carole Vallon, qu'est-ce que vous lui conseilleriez, vous?
Alors moi déjà, en préambule, j'ai l'impression que ce sentiment d'injustice est relativement justifié, malheureusement. Ça, il faut bien le dire. Puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la problématique, c'est qu'on a eu des loyers extrêmement élevés pendant longtemps, avec peu d'investissements pour des mesures énergétiques. Puis maintenant, on se retrouve dans un système où c'est finalement le petit consommateur final qui doit supporter principalement toute la charge de cette hausse des coûts. Et puis ça pose évidemment un problème philosophique, mais que je peux pas régler en tant que juriste. Il y a souvent malgré tout des aides qui sont possibles auprès de l'État pour les gens qui se retrouvent vraiment en difficulté avec avec des suppléments de charges trop élevés. Alors je connais pas la situation à Neuchâtel, mais peut-être que Madame peut se renseigner. La SLOCA a aussi demandé à titre de mesure immédiate du Conseil fédéral, on aura les réponses dans les jours qui viennent probablement, une allocation justement pour ces dépenses énergétiques qui devrait être attribuée aux ménages les plus défavorisés pour qu'ils puissent faire face à cette hausse des charges. Mais en l'état, j'ai pas de réponse définitive.
Oui, ce téléphone de Sylvia rejoint une question que nous envoyait par écrit Robert de La Chaux-de-Fonds. J'ai une question au sujet de la répartition des charges. Ça revient souvent. Avec la hausse des charges, je me suis rendu compte d'une anomalie dans la répartition de mon immeuble. En ma défaveur, je demande depuis des mois des explications à mon gérant, notamment l'étude qui a conduit à la répartition actuelle. Sa seule réponse est que c'est celui qui le demande de payer les frais d'ingénieur pour établir un nouveau calcul du coefficient de répartition, donc à moi. Comme je n'ai rien signé dans le bail concernant cette répartition, je trouve cela parfaitement injuste. Alors, du côté de la SLOCA ou du côté des propriétaires, comment comprendre cette répartition des charges et comment réagir si on a l'impression que c'est injuste, Martine Jacques.
Alors, c'est vrai qu'on a deux manières hein, de calculer de procéder plutôt à la répartition des charges. Lorsque l'immeuble est équipé de compteurs, Maître Wallen l'a dit, hein, pour les immeubles neufs, par exemple dans le canton de Vaud, les immeubles neufs et puis qui ont fait l'objet d'une rénovation lourde, à partir du moment où il y a 5 logements, ils doivent être équipés de compteurs individuels. Donc là, la situation est relativement claire, puisque le locataire paye en fonction de sa consommation, même s'il faut être bien conscient qu'il y a quand même des frais de base hein, qui existe malgré ce décompte individuel des frais de chauffage. Si l'immeuble n'est pas pourvu de ces compteurs-là, eh bien l'autre manière de répartir est en fonction des volumes, des volumes des locaux chauffés. Il n'y a pas tellement d'autres manières de faire. Mètre carré ou mètre cube, s'il y a une différence de hauteur dans les logements. Donc c'est vrai que c'est ces deux systèmes-là qui sont en place. Et j'ai pas tellement d'autres choses à dire par rapport à ça.
Ouais, la seule chose par rapport à ça, c'est que le système de répartition des frais de chauffage doit être équitable. C'est en gros la seule règle qu'on peut dégager de la jurisprudence. Donc ça veut à la fois tout et rien dire. Tant qu'il n'y a pas d'inéquité manifeste entre les locataires, en principe, ces décomptes vont être validés. Maintenant, j'ai déjà eu des cas où, en revanche, la façon de calculer jouait pas du tout, par exemple, parce qu'on avait des locaux commerciaux et des locaux d'habitation. Puis dans ce cas-là, ça peut valoir la peine de se pencher sur le détail de la manière dont c'est calculé pour essayer de retrouver un équilibrage plus juste.
Alors justement, il y a des cas justement où le calcul des charges peut être vraiment fortement remis en cause. C'est Jessica qui nous a écrit un long mail à ce propos, je le résume. Hein. Elle a quitté son appartement en juin dernier. Elle payait jusqu'alors 200 francs de charges par mois, ce qui est assez élevé, mais quand même. Le propriétaire lui réclame maintenant un arriéré de charges de 700 francs, qui est totalement inexplicable pour elle, parce qu'elle n'a pas augmenté sa consommation de chauffage ou d'eau. Jessica soupçonne s'être fait avoir en acceptant de payer les charges à raison de moitié-moitié entre elle et son propriétaire, puisqu'en fait, elle occupait un appartement d'une maison qui avait deux appartements, donc elle vivait dans les murs du propriétaire. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire, nous demande-t-elle? Est-ce qu'on peut agir si on a l'impression d'avoir affaire à des charges injustifiées?
Alors bien sûr, on peut intervenir. Il faut faire examiner ce décompte par un spécialiste, que ce soit la SLOCA ou un avocat qui a un peu l'habitude de ces questions-là. On peut saisir l'autorité de conciliation si on estime qu'il y a une erreur ou des choses qui sont facturées alors qu'elles ne devraient pas être facturées. Et puis l'autorité va examiner le décompte dans le détail et déterminer si le décompte est établi de manière correcte ou pas. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est peut-être encore assez important, c'est que ne peuvent être facturées séparément aux locataires que les charges qui sont expressément prévues dans le contrat de bail. Donc ça veut dire que le bailleur ne peut facturer par exemple le chauffage que si c'est prévu que le chauffage est facturé à part au locataire. Même chose pour l'eau chaude, même chose pour tout ce qui est taxe d'épuration, conciergerie, etc. Ça doit être spécifiquement prévu dans le contrat, autrement le bailleur ne peut pas le facturer au locataire. Donc ça c'est un point à bien examiner quand on reçoit le décompte. Et puis s'il y a des postes qui sont facturés alors qu'ils ne sont pas prévus par le contrat de bail, en principe ça va tomber devant une autorité.
Ça doit être spécifié par écrit ou ça peut être par oral?
Non, ça doit être prévu par écrit.
Donc on peut conseiller à Jessica de voir si c'était bien spécifié dans son contrat. Didier ?
Oui, encore une question sur ce thème qui nous a été envoyé par écrit par Christine. Quid des frais accessoires ? Je n'ai vraiment rien compris à ce qu'ils englobent. Utilisation de la buanderie, j'ai mon propre lave-linge. Entretien des pièces communes qui par ailleurs laissent à désirer. Je paye 140 francs par mois. Est-ce juste légal ? Martine Jacques, je vois sourire.
C'est la question des, je comprends bien la question de madame, hein, pour nous qui traitons du droit du bail tous les jours, on parle de frais accessoires. Les frais accessoires, ce sont les frais qui sont en lien avec l'utilisation, on dit de la chose louée, en lien avec l'utilisation de l'appartement. Et il faut, lorsque le bail est rédigé, alors c'est vraiment une recommandation très claire qu'on peut faire aux bailleurs, rédiger le bail d'une manière extrêmement claire et rigoureuse, parce que à la lecture du contrat, le locataire doit pouvoir comprendre de manière très précise ce qui lui sera facturé à titre de frais accessoires, ça veut dire en plus de son loyer dit net. Et le bail doit dire précisément quels sont ces frais accessoires. Ahmed Wallon l'a dit, le chauffage, l'eau chaude, la taxe d'épuration des eaux, la taxe d'enlèvement des ordures par exemple. Et parfois, il est possible aussi de facturer à titre de frais accessoires, par exemple, l'électricité des communs, ou l'abonnement d'entretien de l'ascenseur, mais pour pouvoir le facturer en plus du loyer, donc ça suppose un décompte en fin d'exercice, il faut que ce soit écrit noir sur blanc dans le contrat. Et en aucun cas, dans les frais accessoires, on ne peut mettre des questions, des factures de réparation, par exemple.
Il reste une petite dizaine de minutes pour poser vos questions. On en reçoit beaucoup, on a beaucoup d'appels aussi en attente. On s'excuse d'ailleurs pour l'attente parce qu'on a beaucoup de questions. On va tout de suite prendre un appel au 0800 108 208. C'est Michel qui nous appelle de Palaisieux. Michel, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai une question concernant les économies de chauffage. Mon locataire a demandé à ce qu'on installe quelques panneaux solaires ou pompes à chaleur pour il est chauffé actuellement au gaz et puis il a des inquiétudes dans ce sens-là. Et voilà, alors j'ai demandé des devis. J'ai des devis pour une pompe à chaleur ou des panneaux solaires qui sont assez coûteux. Alors ma question, c'est de savoir si on entreprend des travaux dans ce sens-là, est-ce qu'on peut envisager une augmentation de loyer?
Alors, Martine Jacques va vous répondre, Michel.
Les travaux dont vous parlez sont des travaux de rénovation énergétique. À partir du moment où vous changez le système de chauffage pour mettre une pompe à chaleur qui économise l'énergie et puis qui évite les émissions polluantes, c'est considéré comme des investissements à plus-value qui permettent une répercussion sur les loyers, alors à certaines conditions. Hein. La jurisprudence est stricte par rapport à ça. Il faut déterminer quelle est la part de plus-value. En l'occurrence, ce serait le surcoût dû à ces travaux purement énergétiques. Et puis après, il y a un calcul qui se fait en trois étapes. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il faudra évidemment le faire de manière rigoureuse. Ça, c'est pour la pompe à chaleur. Après, pour les panneaux solaires, la situation est un petit peu différente parce que à partir du moment où un locataire entrait dans un groupement d'autoconsommation, donc l'immeuble produit sa propre électricité et le bailleur vend cette électricité à son locataire, eh bien là, l'investissement que fait le bailleur dans les panneaux solaires photovoltaïques, il est refacturé en quelque sorte dans le prix du kilowatt qui est facturé au locataire. Donc il n'y a pas de hausse du loyer. Par contre, il en est tenu compte dans le prix de l'énergie vendue au locataire à des conditions assez strictes parce que là, il y a la loi sur l'énergie qui entre en considération. Mais il faut savoir toutefois que le locataire est protégé en quelque sorte parce qu'il ne peut pas payer plus que ce qu'il paierait s'il continuait à être fourni par le gestionnaire de réseau habituel.
C'est un peu paradoxal quand même de pouvoir augmenter le loyer alors qu'en fait, ces investissements vont faire réduire les frais du propriétaire à terme. C'est quand même des économies d'avoir une pompe à chaleur, par exemple, ou d'avoir des panneaux solaires.
Alors, c'est aussi une économie pour le locataire. Donc, l'idée, c'est aussi, à la base, c'était un petit peu ça. Hein, quand il y a des investissements à plus-value, donc on procède à des travaux à plus-value énergétique. Ça engendre une hausse de loyer parce que le locataire s'y retrouve aussi. Mais même si ce n'est pas le cas, même si le locataire ne s'y retrouve pas, il a été considéré que ce sont des travaux qui peuvent engendrer une hausse de loyer parce que finalement, ça participe de l'effort collectif de réduire les émissions polluantes, par exemple.
Alors, on a reçu pas mal de questions sur les panneaux solaires. Sachez que, alors on ne va pas, disons, les développer maintenant, puisqu'il y a beaucoup de questions techniques, par exemple sur les panneaux solaires qu'on peut plugger, enfin les fameux plug and play qu'on peut mettre sur son balcon, notamment des locataires qui nous disent « est-ce que je peux installer ça sur mon balcon ?» Alors sachez que Jérôme Timmerman y reviendra dans une chronique jeudi, donc on ne va pas développer cela ici. On va prendre à 9h51 un autre appel au 0808-208, Fidèle, qui nous appelle de Lausanne. Bonjour Fidèle.
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Oui, et on vous écoute. Ouais.
Voilà. Écoutez, j'ai deux questions. La première concerne précisément la situation avec les compteurs d'eau chaude. La gérance du bâtiment a changé récemment. Et cette dernière, lors du dernier décompte des chauffages, a fait ses calculs sur la base du volume des appartements, malgré qu'il y a un local commercial de nourriture au rez-de-chaussée. Et on voudrait savoir si c'est légal et si c'est acceptable que, malgré le fait du maître compteur d'eau chaude, il décide unilatéralement de passer de la consommation réelle au calcul volumétrique.
D'accord, donc vous êtes passé effectivement du calcul du compteur d'eau chaude à celui lié au volume des appartements. Et il y a un local commercial qui forcément consomme peut-être un peu plus d'énergie au rez-de-chaussée.
Forcément, parce que c'est la nourriture faite sur place à emporter.
Ouais,
et c'est surtout de façon unilatérale. Donc tout d'un coup, on a vu un calcul fait sur la base de la répartition volumétrique.
Alors, est-ce qu'on peut s'opposer à cela, Caroline?
Alors, ça me paraît très bizarre comme manière de procéder, évidemment. Maintenant, il faut distinguer. C'est possible qu'il y ait des compteurs d'eau d'une part, et puis par contre, pas de compteur pour le chauffage. Donc, on est peut-être dans cette situation-là. Mmh. Je connais évidemment pas du tout l'immeuble, donc c'est toujours difficile de répondre ça de manière purement théorique. Donc, il est possible que ce soit calculé au volume pour le chauffage, mais par contre, à la consommation réelle pour l'eau chaude. En principe, s'il y a des compteurs, eh bien, on doit se fonder sur la consommation effective, donc sur la consommation des compteurs. Et il y a, en principe, pas d'autres alternatives. Il est clair que si vous avez un local commercial, typiquement un restaurant qui est assez consommateur en énergie, particulièrement potentiellement en eau chaude, en principe on doit alors soit avoir des compteurs individuels et des compteurs séparés pour les commerciaux et pour les logements, soit dans le calcul, pondérer ça de manière à ce que la clé de répartition soit équitable. Sinon, ça ne va pas. Si vous avez un doute là-dessus, ben c'est le conseil que je donnais avant, faire examiner les décomptes et puis cas échéant saisir l'autorité de conciliation.
Fidèle, vous aviez une deuxième question?
Oui, ça concerne le concept charges et frais accessoires. Jusqu'à la dernière gérance et au moment de la signature du bail, c'était marqué un seul concept, 135 francs. Et la dernière gérance, aussi de façon unilatérale, a mis le même montant, mais splitté. Charge 100 francs, frais accessoires 35 francs. Mais au moment de la signature de bail, personne n'a dit voilà, ça représente tel pourcentage. Et donc, est-ce que c'est légal de dire unilatéralement, moi je décide que vous allez payer 100 de charges et 35 de frais accessoires?
Alors, est-ce que c'est légal, Caroline?
De nouveau, le bailleur peut subdiviser les choses de cette manière. Si dans le bail initial, il y avait uniquement, par exemple, 100 francs de chauffage et eau chaude et pas d'autres frais accessoires qui étaient prévus, s'il veut introduire des nouveaux frais accessoires, il peut le faire, mais il doit le faire au moyen d'une formule officielle de notification de loyer. Les règles à ce sujet sont relativement strictes aussi, puisqu'il peut introduire ses frais accessoires, mais il doit en principe les sortir du montant du loyer net. Donc ça veut dire qu'en théorie, il n'y a pas d'impact immédiat, en tout cas sur le loyer brut, c'est-à-dire le montant total payé, loyer net plus charges et frais accessoires. Donc il va devoir les sortir du loyer, notifier ça sur formule officielle et le locataire de nouveau a 30 jours dès le moment où il reçoit cette formule officielle pour s'opposer à ce nouveau calcul et contester la facturation séparée des frais accessoires en saisissant l'autorité de conciliation.
Martine Jacques, quelque chose à ajouter ?
C'était parfaitement clair.
C'était clair. Voilà, on va devoir refermer ce guichet. Nos excuses à toutes les auditrices, tous les auditeurs qui nous ont appelés pour poser leurs questions et qui n'auraient pas pu passer à l'antenne par manque de temps. Bah oui, une heure, c'est très très vite passé. Ça paraît long comme ça, mais en fait, il y a énormément de questions sur cette sur ces problématiques de charge. Merci quand même à nos deux invités de s'être pliés à l'exercice du guichet. Carole Vallon, avocate à Lausanne, spécialiste en droit du bail et vice-présidente de l'ASLOCA Vaud. Et vous, Martine Jacques, juriste à la Chambre vaudoise immobilière. On vous souhaite à toutes les deux une excellente journée.
Merci.
Merci.
Et sachez que notre prochain guichet sera consacré, donc mardi prochain, sera consacré à l'arrêt du tabac. Voilà, comment faire pour arrêter de fumer si vous cherchez à le faire, hein, ou si vous avez réussi à le faire, peut-être que vous pouvez partager vos trucs avec les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient arrêter le tabac. Vous pouvez le faire déjà maintenant en nous appelant 0800 108 208, enfin en laissant un message sur le répondeur dès que le répondeur sera branché, ou alors en nous écrivant à onenparle@rts.ch ou un vocal au 076 206 12 12.